France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Au lendemain de Saint-Étienne-du-Rouvray, les remises en question se poursuivent. Après la protection des lieux de culte, la surveillance des personnes, la sécurité en balance avec nos libertés, après la réforme de l'islam de France, les médias. Sommes-nous coupables de trop parler, de trop montrer? Devons-nous chacun à notre manière contribuer à lutter contre le terrorisme ou participer simplement à apaiser? Au lendemain de l'attentat de Nice, un 15 juillet, déjà sur cette antenne, nous ouvrions le débat avec Fethi Benslama. Peut-on arriver, demandait-il, à un pacte entre les médias pour ne pas divulguer les photos des tueurs. Le psychanalyste invoquait alors la recherche de notoriété des candidats au djihad comme ressort du passage à l'acte. Ce débat, nous le rouvrons ce matin avec Alexandra Schwarzbrot de Libération, avec Christian Macarian de L'Express et avec André Günther, historien spécialiste des images et maître de conférence à l'EHESS. Alexandra, terroriste, faut-il les montrer? C'est le titre que vous avez choisi de mettre en une avec le visage d'un terroriste, mais visage voilé, caché, avec comme si son image avait été découpée et son visage retiré, ce qui pose évidemment la question donc de l'anonymat, pas simplement des noms, mais aussi des visages. Cette question, la presse se l'est moins posée au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, un peu moins aussi au lendemain des attentats de novembre, celui notamment du Bataclan. Pourquoi aujourd'hui, Alexandra, vous ouvrez très clairement ce dossier? Est-ce que vous pensez qu'il y a un effet de saturation? Il y a eu un trop plein d'images, une surexposition et dans tout ça, le besoin peut-être d'une réflexion collective.
Non, mais on l'a fait aussi parce que le débat monte.
Moins,
le débat
tous monte, on l'avait moins. Ah oui, d'accord.
Au sein des médias, on voit bien aussi, nous, les retours que nous avons. C'est un débat qui monte aussi au sein des lecteurs. Enfin, tout le monde commence à se poser la question parce que là, il y a un effet peut-être un peu de saturation. Hein, on arrive au bout d'une séquence qui était quand même très lourde.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, les lecteurs? Quelle remontée vous avez?
On a des remontées. Voilà, il y a eu certaines unes où on a mis en effet certains terroristes en une, où on a eu des réactions assez violentes. Et moi, je trouve ça bien que le débat s'ouvre aujourd'hui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que à Libération, par exemple, ça n'a pas fait du tout. Enfin, il y avait unanimité. Hein, il n'y a pas eu de débat musclé. On s'est pas engueulé. Personne n'a rien imposé à personne. On était tous sur la même longueur d'onde. Il faut continuer à publier les photos des terroristes, à les appeler par leur nom, parce que tout simplement, c'est la liberté d'informer. Et ça, il y a un édito de Laurent Geoffrin qui l'explique parfaitement bien ce matin dans Libé.
Regardez la menace en face.
Hein. Il faut regarder la menace en face. Il faut surtout pas se cacher la tête dans le sable, parce que il y a aussi dans cette volonté dans cette envie de cacher ces images, que je peux comprendre aussi, mais il y a aussi, je pense, une sorte de déni, c'est-à-dire qu'on veut pas les voir. On n'en peut plus, on ne veut pas les voir, et donc on veut repousser le problème. Le problème, c'est que à l'ère des réseaux sociaux, ça ne tient pas, ça ne marche pas. Surtout que les terroristes, eux, l'État islamique a développé sa propre communication qui est extrêmement bien foutue, et ils balancent à longueur de journée des photos, des vidéos sur leur site. Donc, si les médias classiques cachent et que sur leurs réseaux, tout ça circule, ça n'a pas vraiment de sens.
Alors, Internet, les réseaux sociaux ne peuvent pas être en gros abreuvés d'images et la presse ou les médias, télé, radio, en faire complètement l'impasse.
Parce que ces images
existent ailleurs.
Ça n'a pas de sens. Voilà, ça existe ailleurs et je pense que tout le monde ira les voir ailleurs. Juste une petite précision.
Et après, on écoute Christian Macarian.
Publier les photos et les noms, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. C'est pas tout blanc ou tout noir. Il faut aussi faire attention. Il faut aussi se montrer responsable. Il ne faut pas publier n'importe quoi. Il faut qu'on se pose la question à chaque publication de photo, est-ce que ça le mérite ou pas?
Alors, juste deux réactions dans la presse. Déjà avant-hier, deux quotidiens ont pris position, Le Monde et Le Figaro. Jérôme Fenoglio, le directeur du Monde, a expliqué le choix de ne pas mettre à la une des photos des terroristes. Depuis l'apparition du terrorisme de l'État islamique, Le Monde a plusieurs fois fait évoluer ses usages. Nous avons notamment décidé de ne plus publier milliers d'images extraites des documents de propagande ou de revendication de l'État islamique. À la suite de l'attentat de Nice, nous ne publierons plus de photographies des auteurs de tueries pour éviter d'éventuels effets de glorification posthume. D'autres débats sur nos pratiques sont en cours. Alexis Brézé, de son côté, directeur des rédactions du Figaro, a pris une position contraire. Si l'on veut lutter contre ce mal absolu qu'est le terrorisme islamiste, nous devons d'abord collectivement nommer les choses, nommer les gens et les montrer. Ce qui revient, Christian Macarian, à la position effectivement adoptée par Laurent Geoffrin, cette idée de regarder la menace en face. Mais regarder la menace en face, publier des images, veut-il dire qu'on peut publier toutes les images, n'importe quelle image? On se souvient de la réaction assez forte du député de la Drôme, Hervé Mariton, après la diffusion par les chaînes de télévision le 18 juillet dernier d'un selfie du terroriste au volant de son camion, le responsable de l'attentat de Nice. Photo qui, selon lui, accentuait la starification indécente et dangereuse. Avec une quinzaine de parlementaires, il a d'ailleurs déposé un recours devant le CSA sur ce sujet. Des photos, mais pas toutes les photos.
Écoutez, ce débat est extrêmement complexe et je crois qu'il faut essayer de le clarifier. Il est soumis à l'éthique journalistique globale. Ça n'est pas, il ne faut pas faire une exception pour ce cas-là, sinon ça veut dire que le métier de journaliste est extrêmement relatif et friable et qu'il vole un éclat à la première épreuve sérieuse. Non, il y a une éthique journalistique qui permet, je trouve le point de vue de Fenoglio tout à fait raisonnable, de ne pas publier Boulel qui se montre en forçant ses biscottos en plein soleil et qui a mis ça en ligne de manière à ce que ça puisse servir effectivement à sa propre glorification. Là, je comprends tout à fait cela. Mais il y a un problème global, et je crois que l'angle suivi par Laurent Geoffrin est le bon. Il y a un problème global qui est que, précisément, la croyance nous allons pouvoir combattre la propagande de l'organisation État islamiste par des mesures de ce type-là ne tient absolument pas compte du degré de profondeur et de pénétration de ce type de propagande. Ce qui nous dérange dans cette affaire, et là, les médias y sont confrontés directement, c'est l'extraordinaire modernité de la propagande assassine de l'organisation État islamique. J'entends par modernité la façon dont ils utilisent tous les vecteurs électroniques à la seconde près, et je rappelle qu'ils disposent même d'une so-called, d'une soi-disant agence de presse, AMAC, dont nous sommes tous tributaires, puisque nous sommes suspendus au communiqué d'AMAC pour savoir s'il y a revendication ou pas. Autrement dit, c'est bel et bien quelque part Daesh qui mène le bal médiatique. Et il faut faire très attention à ça. Alors, ne pas divulguer ou divulguer, c'est une question, mais l'essentiel, c'est quand même de dire la vérité et de faire très attention à ce type de propagande. Je crois qu'il faut dire les choses, donner les noms des gens, parce qu'il y a énormément d'informations pour le tissu social à prélever de ces divulgations de noms, par
de
exemple.
De l'histoire ou des parcours, c'est pas forcément les noms.
Quand
mais
vous
en
voyez
tout
que Kermiche habitait
derrière
à 2000 mètres du prêtre assassiné, c'est une information importante et son identité nous permet de comprendre le déchirement du tissu social qui est recherché par Daesh et précisément de réagir contre cela.
André Günther, on est la France est en guerre. Hein, on a plusieurs fois répété le président de la République ainsi que l'ensemble du gouvernement. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi aujourd'hui dans une guerre d'information, comme l'évoquait à l'instant Christian Macarian, et dans une guerre d'image?
Tout à fait. Et on peut dire que le principal ennemi, comme on sait, de la vérité, c'est la guerre. Je veux bien qu'il y ait une éthique journalistique de façon globale, mais là, il est exact aussi que nous vivons une situation bien particulière, qui est qualifiée par nos responsables politiques comme une situation de guerre.
Et le problème quand il y a la guerre, c'est qu'il y a de la propagande et de la désinformation et de la censure potentiellement.
Ça fait partie. Alors qu'aujourd'hui, les médias se posent la question, comme Libération et d'autres, savoir non seulement ce qu'il faut montrer, mais bel et bien ce qu'il faut cacher. Donc appelons aussi les choses par leur nom, il s'agit bien de censure. Ce sont les médias eux-mêmes qui se posent la question. Et comme nous l'a indiqué Alexandra Schwarzbrod, il y a aujourd'hui quelque chose qui est une demande aussi du public de ne pas être nécessairement exposé à ces, tout, de façon répétée à ces images d'atrocité.
Alors via donc le courrier des lecteurs, via les retours qu'on peut avoir dans les télés, dans les radios, et puis aussi cette pétition qui a été lancée par un lycéen de 18 ans et qui réclame l'anonymat des terroristes, déjà plus de 110 000 signatures.
Non mais juste écoutez, pour citer, je ferai aussi de mon côté une synthèse un peu différente de celle que proposait Macarian il y a un instant. On a en gros deux types d'imagerie et puis plus largement d'informations aujourd'hui autour des attentats. D'une part, l'imagerie des attentats eux-mêmes, donc des violences extrêmes, dont la répétition, effectivement, devient insoutenable. Et de l'autre, on a ces images, comme la une de la Croix aujourd'hui, de recueillement du deuil, hein, et qui inclut aussi la communication gouvernementale, les discours du président, etc. Mais vous voyez bien que avec ces deux catégories, il nous manque quelque chose. Si nous sommes en guerre, où sont les images de nos victoires? Nous ne faisons que montrer les victoires de nos ennemis. C'est ça le paradoxe de la situation aujourd'hui. Et donc les médias qui aujourd'hui se prennent effectivement à bras-le-corps cette question en se disant « Mais que sommes-nous en train de montrer ?» Sinon les victoires de nos ennemis. Et donc effectivement, il va falloir passer à une communication de guerre. Qu'est-ce qui se passe en 14-18 quand les journaux communiquent sur la guerre? Eh bien, on minimise bien sûr les victoires de l'ennemi et on montre les victoires de notre propre
Christian
camp.
Macarian.
Ça a toujours été comme ça.
Monsieur Hamel, vous tenez pour acquis que nous sommes en état de guerre.
C'est et pas moi qui le dis, c'est le président de la République.
Ben c'est certes, mais vous ne le discutez même pas. Et moi, ça me pose un problème. Comme l'a dit Henry Kissinger, dans le type de guerre asymétrique dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire un faible qui menace le fort et qui le tient en haleine, qui le tient à sa merci, comme l'a dit Henry Kissinger et qui s'y connaissait en matière de conflit, quand la guérilla gagne, gagne quand elle ne perd pas. L'armée régulière perd quand elle ne gagne pas. Nous sommes dans le cas d'une armée régulière.
Hein. Bon, à part donc, ouvrir maintenant le débat sur la guerre et l'art de la guerre et les formes de cette guerre, si guerre il y a, mais celui des images dans ce contexte.
L'emploi du terme guerre est problématique et je pense qu'il faut le discuter et je ne pense pas qu'il réponde complètement à la nature de ce défi. Il y a un énorme problème au Moyen-Orient, c'est une chose, il y a un énorme problème dans la société française. Et ne pas voir cela, et c'est indépendant de tout cela, la situation de cette jeunesse-là, je rappelle l'âge des intéressés, 17 ans, 18 ans, 19 ans. En Allemagne, il avait 17 ans aussi. Ça, c'est une question qui n'a rien à voir avec état de guerre ou pas état de guerre. Il faut pousser plus loin l'introspection et l'interrogation sur l'état de notre société.
À qui revue, attendez, André Günther.
Il y a quand même un problème qu'il ne faut pas oublier, c'est que la communication fait partie de la stratégie terroriste. Elle est pleinement intégrée, comme vous nous l'avez expliqué, à l'action terroriste elle-même qui prend appui sur le fait que les médias occidentaux vont non seulement relayer, mais relayer sous forme de breaking news, c'est-à-dire à la hiérarchie maximale de l'information, c'est-à-dire donner encore plus
d'ampleur.
C'est nous qui donnons encore plus d'ampleur aux attentats par notre communication.
Donc il y a une forme quand même d'héroïsation pour vous.
C'est le piège du terrorisme, souvenez-vous du 11 septembre. Donc ça fait bien partie de la stratégie terroriste. Ne pas en tenir compte, c'est effectivement sauter à pieds joints, tomber à pieds joints dans ce piège.
Alexandra Schwarzbrot.
Alors il y a un excellent article de Luc Mathieu ce matin dans Libé, qui est notre spécialiste du sujet, et qui raconte justement, qui explique comment les djihadistes voient ça et envisagent sans doute ce débat, évidemment il n'est pas dans leur tête, mais ce qui les intéresse eux, dit-il, surtout, c'est l'entre-soi. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent d'être dans le Figaro, dans Libé, dans l'Express, ça c'est pas leur souci. Eux, ce qui leur importe, c'est d'être sur leur site, qu'ils puissent se voir entre eux, et à la limite, qu'on les nomme, qu'on les montre dans des positions en train de fumer des clopes, de boire des coups entourés de filles à poil, etc. Cette idée les met plutôt mal à l'aise, ne serait-ce qu'à cause de leur famille, qu'on les voit, que ça puisse retomber sur leur famille. Donc c'est pas évident, c'est pas totalement évident que ça héroïse totalement les terroristes.
Tout à l'heure, je citais le psychanalyste Fethi Ben Slama qui, sur cette antenne, disait qu'il faudrait peut-être penser à passer un pacte effectivement entre les médias. Il y avait aussi, selon lui, pas simplement le problème de la surexposition des djihadistes ou des auteurs de ces actes, mais aussi la sous-exposition des victimes. C'est-à-dire qu'on va nommer, montrer des visages de ceux qui ont commis les actes, mais moins de ceux qui ont perdu des vies dans ces attentats. Et c'est la même position que prend Nathalie Henisch, hein, qui est sociologue, pour qui il faut absolument que les médias arrêtent de mentionner le nom des terroristes et de diffuser ces photos, que ça conduit, selon elle, à une augmentation du capital de visibilité des auteurs de crimes de masse, qui conduit à leur vedettarisation. Se pose alors la question du droit à l'information. C'est pas un droit juridique, c'est pas le droit de tout dire, c'est le droit de dire quoi exactement, Christian Macaire? Qu'est-ce qu'on veut dire, en fait? Elle est là, la question.
Je suis en désaccord avec M. Hamel, c'est qu'il faut arbitrer entre deux façons dont le terrorisme
parvient...
Quand
vous dites M. Hamel, c'est André Günther. Hein,
pardon, j'ai dit André Günther.
C'est le père Hamel qui est décédé à Saint-Étienne.
Lapsus de ma part, pardon. Pardon, M. Günther. Là où je suis en désaccord avec M. Günther, c'est qu'il y a deux façons de prendre le sujet. Si vous dites ce que vous avez dit tout à l'heure et qui est tout à fait légitime, si vous dites qu'il faut modifier les règles de fonctionnement démocratique appliquées aux médias parce que le terrorisme le requiert, vous accordez... Laissez-moi terminer ma phrase, je vous prie, Monsieur Günther.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le public qui le demande.
Très bien.
Moi, j'observe les réactions
si
des médias eux-mêmes.
Si vous consentez cette modification...
Non, c'est pas mon avis à moi.
Alors, si on consent, vous préférez le droit de la personne.
Écoutez, cette question, elle est aujourd'hui dans les médias. Si les médias se posent la question de la gestion de l'information...
Si je peux terminer ma phrase, je voudrais juste dire...
Elle est aussi...
Non, vous me mettez dans ma bouche quelque chose qui n'est pas mon jugement, je suis désolé.
C'est une
question. La question peut être savoir, si on change un petit peu le prisme, est-ce qu'il faut laisser cette question aux médias ou est-ce que c'est à une autorité supérieure d'essayer de s'en saisir? Il y a quand même aujourd'hui un comité de travail, un groupe de réflexion qui a été mis en place par le gouvernement et notamment par Juliette Méadel qui tend à repenser une déontologie des médias. Est-ce que l'État pourrait légiférer là-dessus? Est-ce que vous attendez qu'on nous dise ou qu'on vous dise comment il faut traiter ce type d'information?
Moi, je pense qu'il ne faut pas laisser l'hyperterrorisme auquel nous sommes confrontés, modifier nos règles de fonctionnement démocratique, y compris celles qui sont appliquées aux médias.
Oui, Alexandre, je suis entièrement d'accord avec Christian Macarian. Ce serait très grave que l'État commence à intervenir dans le fonctionnement des médias. Ce serait totalement antidémocratique.
André Günther?
Oui, encore une fois, je crois que là, on est face à quelque chose qui est une nouvelle étape, qui est une demande de la société, qui se répercute aujourd'hui dans les médias.
C'est pour ça que c'est une
avancée. Oui. C'est clairement une avancée. Je pense que le gouvernement aujourd'hui ne se pose pas encore cette question. Et il a tort, il ferait bien d'y venir.
Et sur ce qu'il nous faut dire, il faut peut-être commencer à ouvrir cette réflexion, Christian Macarian. Qu'est-ce qu'on veut dire?
Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qu'on a envie de vivre ensemble et de ne pas voir nos règles de fonctionnement modifiées, mais il faut pour autant s'interroger sur la société que nous avons construite et qui est absolument inadaptée à ce type de menace-là. Le degré de sophistication de la propagande de Daesh doit nous interroger. C'est ce que nous faisons ce matin autour de ce micro. Mais il ne faut pas envoyer à Daesh la satisfaction que nous sommes désemparés. Et je crois qu'il faut répondre de façon forte. Nous avons des règles, nous avons construit une société sur ces règles, et bien nous les conservons.
Les journalistes doivent continuer à faire leur métier.
Merci beaucoup à tous les trois. Alexandra Schwarzbrod, vous restez avec nous parce qu'on a notre rendez-vous avec les auditeurs de France Culture à 8h20. Christian Macarian, merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur délégué de la rédaction de L'Express qui fait sa une cette semaine sur la dynastie Clinton. Et merci mille fois à vous, André Günther.